tous et bienvenue pour la quatrième émission de Première Classe. Comme vous l'entendez, les vacances scolaires n'empêchent pas Gecko d'enregistrer au studio. Cela n'empêche pas non plus de recevoir des invités. On a avec nous aujourd'hui Corinne Dugan.
Bonjour.
Bonjour Corinne.
Bonjour.
Présidente du Carnaval de Saint-Rémy. Et comme chez Gecko personne n'est en vacances, enfin sauf Sylvain.
Fainéant de prof.
Alice est toujours là pour sa chronique cinéma.
Bonjour.
Salut Alice. Mais aussi, nous avons notre critique gastronomique Sébastien qui ne chôme pas non plus.
Ouf, ça c'est vite dit.
Et Panda pour finir avec sa chronique musique.
Et ouais, salut tout le monde comme d'habitude.
Sur cette semaine qui portera sur un groupe russe qu'on adore.
Little Big.
Mais vacances ou non, professeur Sylvain n'a pas abandonné l'équipe. Coucou Sylvain.
Salut, salut.
Je laisse d'ailleurs tout de suite commencer pour nous parler du livre poignant que tu as choisi.
Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce livre qui a fait polémique lors de sa sortie, qui s'intitule Le Monde Djihad, écrit par Dounia Bouzar et Farid Benyettou, et qui a été publié en 2017.
C'est pas le livre écrit par le mentor des frères Kouachi, ça ?
C'est exact, Christelle. Farid Benyettou est bien connu comme l'émir des Buttes-Chaumont et comme étant le mentor des frères Kouachi, qui ne sont autres que les auteurs des attentats de Charlie Hebdo.
Pourquoi t'as choisi un sujet qui change autant du livre de la jungle ?
Ah, pour plusieurs raisons, Christelle. Plusieurs raisons que je vais détailler plus tard. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi ce livre a attiré mon attention. Alors d'abord, pourquoi j'ai décidé de lire ce bouquin ? Ben, c'est le côté polémique qui m'a attiré au tout départ. Beaucoup de gens sont scandalisés par la sortie de ce récit, car les temps étant durs entre la France et Daesh. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi un livre coécrit avec un ancien djihadiste puisse sortir. Bon, même si j'ai trouvé ça un tout petit peu hypocrite parce qu'on clame la liberté d'expression, on se rend compte que chez certaines personnes, ça peut déranger lorsqu'elle est totale. Ensuite, je me suis dit, génial, je vais pouvoir lire un livre qui a été écrit par un mec qui a trempé dans le terrorisme et je me suis dit que cela me permettrait de comprendre un peu mieux comment tant de jeunes se font embrigader et laver le cerveau.
Oui, après, tu réponds pas vraiment à ma question. Pourquoi avoir vraiment choisi de faire la chronique sur ce livre ?
Eh bien, cela me tenait à cœur de faire ma chronique sur ce bouquin, car il soulève plusieurs questions qui peuvent être dérangeantes. Comment des gamins plutôt non violents peuvent être embrigadés dans de tels mouvements ? Est-il réellement possible de se faire déradicaliser ? Et une fois qu'on a payé sa dette à la société, pouvons-nous être réintégrés dans cette même société sans être vus comme un ancien délinquant ? Chacune de ces questions peuvent créer de vrais débats qui, à mon goût, peuvent être très intéressants.
Alors raconte-nous ce bouquin maintenant.
Alors ce livre, il s'articule en trois parties, une introduction et une conclusion de Dounia Bouzar. Alors Dounia Bouzar, c'est une anthropologue qui a fondé et qui dirige le CPDSI, qui est le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Et il y a le récit de Farid Benyettou, qui est pour moi la partie la plus intéressante du bouquin. Pour couper court aux nombreuses rumeurs que j'ai pu voir circuler sur le net, même si Benyettou a été dans le passé le mentor des Kouachi, il n'est pas directement lié à l'attentat de Charlie Hebdo. Ce n'est en aucun cas l'homme qui les a poussés à agir à ce moment-là. Il était d'ailleurs déjà déradicalisé. Pour ce qui est du récit, bluffant. Farid nous raconte son histoire comme une autobiographie. Ses sentiments de l'époque, comment il percevait les choses, tout ça nous prend vraiment aux tripes. Comment il est passé de l'islam au salafisme, du salafisme au djihadisme, on vit carrément son parcours.
Ah ben j'imagine.
Il y a même plusieurs passages qui font froid dans le dos. Puis il nous décrit son parcours de prison en prison, sa sortie, les liens qu'il entretenait toujours avec Chérif Kouachi, le deuil de son utopie du djihadisme avec l'affaire Mohamed Merah, et comment il a réussi à convertir Chérif Kouachi au djihadisme quelques années en arrière, et comment il a échoué à le déradicaliser quelques temps avant les attentats de Charlie Hebdo.
Ça n'a pas dû être facile de lire ce livre.
Non, ça faisait froid dans le dos, mais c'était ultra intéressant. Se plonger complètement dans son histoire m'a permis d'y voir plus clair dans son parcours. Pourquoi a-t-il fait tel ou tel choix ? En revanche, il faut savoir que tous les radicalisés n'ont pas le même parcours. Lui est passé de l'islam au salafisme et du salafisme au djihadisme, alors que d'autres radicalisés passent parfois de l'athéisme au djihadisme directement. D'après Dounia Bouzar, même si les parcours sont différents, il y a des points communs chez tous les radicalisés. Et je suis 100% d'accord avec elle sur le fait qu'il faut comprendre pour mieux combattre. D'où le fait que ce genre de bouquin soit hyper intéressant. Je terminerai quand même sur un petit point qui m'a vraiment interpellé dans le récit de Farid Benyettou. Je vous ai dit tout à l'heure que le deuil de son utopie du djihadisme avait eu lieu avec l'affaire Mohamed Merah. Alors c'est vraiment une petite anecdote. Quand il y a eu l'attentat, le premier meurtre de Mohamed Merah sur le militaire qui était musulman, lui-même était persuadé que c'était commis par une personne d'extrême droite. Il était persuadé que c'était un attentat d'extrême droite, puisqu'au début on ne parle pas encore de djihadistes.
À ce moment-là, on l'a tous été, je pense.
Et voilà. Et quand on nous a annoncé que c'était un djihadiste, il s'est, mais alors. Totalement effondré, il avait vraiment du mal à y croire. Puis après, il y a eu donc les autres incidents. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir que cet événement-là lui a vraiment fait, mais totalement abandonner l'idée de quelconque djihad. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions sur le parcours de Farid Benyettou, sur le bouquin, je suis là pour y répondre.
Bah, c'est-à-dire que c'est difficile de te poser des questions sur tes lectures parce que c'est généralement assez complet ce
d'accord,
que tu proposes.
Okay.
Et ça me donne plutôt envie de le lire parce qu'après, si tu en dis trop, on pourra, ça ne sert à rien de le lire non plus.
Bien
quoi,
entendu. Moi, j'ai une question, en fait, ouais. Une interrogation plutôt. Le gars se dit déradicalisé suite à l'affaire Merah. Le problème, c'est que c'est un gars qui a priori planté les graines pour certains djihadistes derrière. Donc, est-ce qu'on peut vraiment l'innocenter juste parce qu'à un moment, il dit « Pounsi, je m'enlève du jeu ».
Alors, en aucun cas, il cherche à être innocenté ou quoi que ce soit.
Ouais.
Mais bon, il a été emprisonné pendant 4 ans par rapport justement à la filière des Butchaumont, puisqu'il était vraiment un des membres importants de cette filière-là. Après, justement, c'est là où revient la question de est-ce que quelqu'un qui a payé sa dette à la société peut être réintégré dans cette même société ? C'est justement la question que je posais tout à l'heure. Honnêtement, je trouve que la réponse est. Enfin, je trouve pas qu'il y ait vraiment de réponse à ça.
Bah, il a fait une démarche de réintégration quand
oui,
même.
Oui, hein, il a fait une démarche de réintégration.
De toute façon, on y reviendra après parce que c'est un sujet relativement sérieux, mais relativement intéressant et très actuel surtout. Donc, on y reviendra.
De toute façon, le livre, c'est un livre qui t'a pris aux tripes.
Oui.
C'est un truc de djihadiste de te prendre aux tripes.
C'est ça.
La blague du technicien. On y est. Tant qu'on est dans la réflexion ou l'humour, les deux, ça marche. On retrouve tout de suite notre psy en herbe folle pour sa chronique spéciale.
Alors, bonjour chers auditeurs, voici le moment de ma chronique décalée, qui va changer un petit peu de cette chronique de Sylvain. Mais cette fois-ci, elle ne va pas porter sur la bouffe comme j'ai pu faire la dernière fois, mais sur un sujet très sérieux qui me tient à cœur, le rêve. Je vais tenter de vous expliquer la théorie du rêve par Sigmund Freud, dont il a posé les jalons en 1900, dans son célèbre ouvrage « L'interprétation des rêves ». Alors, selon lui, le rêve est le gardien du sommeil, car il permet au dormeur de s'affranchir des contraintes extérieures et intérieures pour pouvoir dormir en paix. Mais, plus important encore, il est la voie royale qui mène à l'inconscient. Je vais donc vous expliquer en quoi cela signifie. Alors, tout d'abord, nous ne gardons pas beaucoup de souvenirs de nos premières années, en particulier de 0 à 5 ans. Cependant, les souvenirs que nous pensions avoir oubliés de cette époque peuvent ressurgir pendant nos rêves. En effet, dans les rêves, ces éléments infantiles sont mélangés à ce que Freud appelle les éléments diurnes, qui sont des actions, des pensées que l'on a fait, oui, durant la journée, et tout ça subit une transformation durant le rêve. Ainsi, contrairement aux croyances populaires, le rêve ne prédit pas l'avenir. Désolé.
Et les impressions de déjà vu ? Ça peut avoir un rapport ou...
Oui, sûrement. Donc le rêve, il se présente à nous sous une forme d'une histoire totalement farfelue, bigarrée, étrange, que la peine souvent à raconter, mais où l'on pressent qu'il renferme bien des secrets. Les images telles qu'on se les rappelle sont appelées contenus manifestes, tandis que toutes les pensées refoulées qui ont construit ces images dans le rêve sont appelées contenus latents. Donc il faudrait faire un long travail d'analyse basé sur l'association libre pour percer les pensées latentes qui ont permis la construction de ces images manifestes.
Je vois Sylvain qui fait des grimaces.
Je crois qu'il est perdu.
non, je suis. Ça m'aide à réfléchir.
Alors, Eddie, travail du rêve, le processus qui fait passer le contenu latent au contenu manifeste, à l'aide principalement de deux mécanismes, la condensation et le déplacement. La condensation permet de faire fusionner plusieurs idées latentes en une seule image. Par exemple, il y a un personnage dans votre rêve qui ressemble à Truc, mais qui nous fait penser à Machin, alors qu'il est habillé comme chose, et qu'en fait, à l'analysant, il s'agissait de Pierre. Tandis que le déplacement, second mécanisme, consiste à dépouiller des éléments à haute valeur psychique de leur intensité pour le déplacer sur des éléments de moindre importance. Ça vous est sûrement tous arrivé de rêver de trucs super chiants, mais où vous percevez vos actions ennuyeuses comme très importantes, conférant d'autant plus au rêve sa nature absurde.
Sylvain, arrête de faire des grimaces.
Je crois qu'il rêve beaucoup de trucs chiants, Sylvain.
C'est ça. Il est prof.
Je rêve des élèves, tout ça.
Il y a des élèves sages.
Ah ben justement, j'en viens, parce que maintenant, je vais vous présenter une grande thèse de l'ami de Freud, qui est que le rêve est un accomplissement de désir. Oui. Freud a eu beaucoup de mal à défendre cette thèse, car en effet, ce n'est pas chose aisée de trouver des rêves où on le satisfait manifestement des désirs.
Et lui, il rêve de ses élèves.
Mettre élève et désir pour un prof de lycée, c'est pas génial. Hein, non, attention.
Justement, nous parlons ici de désir inconscient, jugé comme interdit, et de se faire refouler.
C'est dégueulasse.
C'est horrible tout ça.
Alors, ces désirs sont donc censurés, ils ne peuvent donc pas arriver à la conscience. Ainsi, le travail du rêve avec ses mécanismes de déplacement et de condensation met en scène ses pensées prohibées, tout en les modifiant de manière à ce qu'elles demeurent cachées, entachées d'obscurité. Et avant de vous laisser réfléchir aux désirs interdits qui se satisfont durant vos songes, je vais vous parler d'un genre de rêve qui semble tout à fait invalider cette thèse, le cauchemar. En effet, comment peut-on dire qu'un rêve aussi angoissant et si pénible soit la réalisation d'un désir? Le cauchemar est en fait un rêve qui échappe à la censure. Censure qui, je le rappelle, aide à la déformation du rêve. Le cauchemar est ainsi peu déformé et livre ainsi le dormeur sans défense face à l'angoisse. L'angoisse est une indication que le désir repoussé s'est montré plus fort que la censure et qu'il s'est finalement réalisé. Le seul rempart au débordement de ce désir non réprimé n'est autre que le réveil qui prend alors la place de la censure du rêve qui n'a pas pu s'exprimer. Dans ce cas, le rêve a manqué à sa fonction, qui doit être le gardien du sommeil.
C'est pour ça quand on fait un cauchemar, on se réveille avant de mourir ou
ouais, c'est
avant
ça, tout à fait. Okay. Mm-hmm. Ah oui, c'est la dernière défense avant que le désir...
Ah moi, je croyais qu'on mourrait en vrai, sinon.
Bah oui, ça arrive.
Si tu meurs dans le rêve, tu meurs en vrai.
Comme dans le film, là, c'était quoi
je sais plus, mais ça vient d'un film, oui. Merci beaucoup, Alice. On va s'écouter maintenant Delivery de Baby Shambles avant de retrouver Panda et sa chronique musicale. Scaling like a brick call now. What use am I to anyone? Below, frozen, beneath the summer. Don't sing along or you get what I got. So here comes a delivery, straight from the heart of my misery. Here comes a delivery, straight from the heart to you. Now you're finally at school. Oh, what on earth
Et tout de suite, on retrouve Panda avec sa chronique musicale.
Hey, salut tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, comme d'habitude, la chronique musicale, jamais populaire, jamais élitiste, et non pas populiste comme la semaine dernière. Il faut m'excuser, j'avais pas beaucoup dormi. Bref, aujourd'hui, on va parler de Little Big. C'est un groupe russe qui vient de Saint-Pétersbourg, qui s'est formé en 2013 de mémoire. Un petit écoute, Welcome to Russia. Voilà, fallait bien montrer quand même le style avant tout. Bref, c'est un groupe d'électro. D'électro quoi ? Alors ça, tout le monde se pose la question. Ça, c'est... Il y en a qui disent électro-rave, d'autres qui disent électro-trash, électro-bordel, électro ce que tu veux. Moi, je dirais que c'est un mélange d'électro, de trap, de... Il y a un peu de tout, en fait. C'est compliqué.
C'est un peu rock aussi.
Ouais, c'est un peu rock, carrément métal sur certains morceaux. Bref, c'est compliqué à définir. Bon, c'est un groupe qui a commencé en 2013, justement, en première partie de The Entourd. Logique, les influences sont assumées. En tout cas sur le premier album qui est sorti donc en 2014 qui s'appelait justement Welcome to Russia. Les paroles, on va dire, c'est un condensé de critiques de la société moderne russe qui a du mal à rentrer dans le 21e siècle mais qui n'a toujours pas appris du 20e siècle. C'est un mélange étrange qu'on peut voir qu'en Russie, au final, c'est-à-dire un pays riche mais pauvre en même temps, avancé mais arriéré en même temps. Il fait chaud, il fait froid, c'est grand, c'est petit, enfin voilà, c'est moderne et pour autant, tu peux pas te déplacer d'une ville à l'autre parce que la route est complètement détruite, c'est normal. Et ils font un mix de tout ça, c'est un peu, comme on dit, what the fuck, c'est un mélange de tout ça. Quand on prend les clips, c'est un bordel ambulant, vraiment, c'est à voir, c'est un trip immersif. Ils ont des morceaux très rigolos, donc With Russia From Love qu'on vient d'entendre, où c'est très second degré, très assumé, il n'y a aucun souci. En revanche, d'autres morceaux comme Freedom ou des choses comme ça, où les paroles sont plus complètes et la musique est un peu plus profonde. L'an dernier, ils ont sorti un second album, donc qui pareil, a bien marché. Mince, je ne sais plus le nom du second album.
On prépare pas ses chroniques, c'est pas bien.
J'avoue que non, mais enfin bon.
Faut savoir aussi que tu parles de leur musique.
Funeral Rave, voilà, c'est bon, j'ai remis.
Tu parles de leur musique qui sont plus love entre guillemets. Hein, plus pacifiste.
Pas love, enfin, non, ouais, pacifiste.
Plus avec des messages positifs et pacifistes.
Très positifs. Et en revanche, sur scène, voilà, c'est complètement fou. Ils ont une influence The Entourd revendiquée. Il faut savoir que The Entourd, à côté de Point de vue chaud, c'est du pipi-cha, quoi. Franchement, ils les ont surclassés largement. Bref, sur le second album, ils sont allés sur un côté un peu plus électro. Là, en revanche, oui, plus électro-rave, avec des morceaux carrément influencés, hardstyle, raw, voire même hardcore sur certains passages. Là, on va justement s'écouter donc un morceau qui s'appelle Dead Unicorn, qui est le single du dernier album.
Simulating glass, simulating, isolating. change the course of the history. Take off these guys of the drugs and mystery.
I'm here to prove you are reading your shaker dreams, now eating and screaming.
You are the one who controls your living. Don't let your love unicorn die.
Cette semaine, dans On est sorti pour vous, on va vous parler de la soirée Prohibition du Perroquet Bleu. Et oui, comme vous le savez sans doute, nous y étions puisque c'est pas mal notre technicien qui vous fait danser pendant ces soirées folles. Il fallait donc qu'on vous fasse un petit compte-rendu de nos impressions. C'est déjà la troisième édition de cette soirée et c'est toujours une bonne surprise de voir que de plus en plus de monde est présent. La salle est remplie, les sourires sur les visages et tout le monde qui danse toute la soirée. Ce qui est intéressant, c'est que le public vient de plus en plus tôt en début de soirée pour avoir de la musique swing. On a même eu l'occasion d'y voir quelques très bons danseurs. Ces soirées commencent donc par une ambiance swing, plongée dans une musique des années 20 aux années 30. Les hommes arrivent en costume, les femmes arborent des plumes, parfois des masques. Tout le monde joue le jeu. Puis, le swing devient électro-swing. La danse ne s'arrête pas et toute génération se mélange. La musique en suit, années 60, 80, jusqu'à nos jours. Le dance floor clandestin ne désemplit pas. Et quel bonheur de découvrir à chaque fois des costumes plus beaux les uns que les autres. Et de voir que le public ne vient pas seulement pour s'habiller et boire un verre, mais aussi pour la véritable ambiance prohibition qu'on ne trouve qu'au Perroquet Bleu. Comme vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre, pour la prochaine édition du 10 mars, le Perroquet vous ouvrira un deuxième bar au sous-sol afin de ne plus avoir à quitter la piste de danse pour boire un verre. Et pour ceux qui aiment le Perroquet Bleu, je reviendrai vers vous également pour vous parler des jeudis afterwork londoniens qui démarrent très prochainement. On retrouve tout de suite Sébastien qui va nous parler de sa sortie à lui, sa sortie resto.
Oui, bonjour chers auditeurs de Radio GECO, c'est Seb. Je vais vous présenter cette semaine le restaurant Le Garage Café qui est ouvert depuis 2013 entre Pélissane et Salon de Provence à côté de la concession Harley-Davidson. Deux amis à moi l'ont ouvert, Fred qui vous reçoit au bar et Nounours qui est au fourneau. Il vous accueille dans une bonne ambiance, vraiment, déco années 50, style dîner américain. Il vous propose des burgers, des ribs, des bonnes viandes grillées. On y mange du Black Angus et autres burgers classiques ou spéciaux, canard, porc ou encore avec du ribs effiloché, enfin plein de trucs comme ça. Que des produits frais, servis avec salade, frites fraîches. Les desserts sont industriels, mais de bonne qualité. Les prix, ça va de 8 euros, 8-10 euros pour un burger classique à un triple ou avec une viande spéciale jusqu'à 25 euros. C'est copieux, on y mange bien, l'accueil est bon. C'est ouvert tous les mardis enfin, c'est ouvert du mardi au samedi soir. Tous les mardis soirs, ils organisent concerts, humoristes, bœufs musicaux ou autres karaokés. Voilà, pour dîner entre amis, famille. Voir, ils organisent aussi des repas d'anniversaire. Franchement, moi, je vous le conseille. Ça fait des années que j'y vais et j'ai jamais été déçu.
C'est sympa, ouais. En plus, c'est ouais. Rare les esprits dinner coffee, en fait. Hein.
Ouais, mais c'est surtout
la vraie qualité.
C'est surtout la vraie qualité de la bouffe, c'est moi, ça, qui m'intéresse. Ouais. C'est pour ça que je vous en parle.
C'est bien de connaître des restaurants, pardon.
Par rapport au dîner américain qu'on retrouve à côté des pâtes, des pâtés, des.
Tout à fait. Ouais, ouais. Là, c'est de la vraie qualité, des produits frits, du fait maison. Et
exactement.
C'est ça qui change.
Et l'ambiance est sympathique aussi.
Ouais.
L'ambiance
ouais,
chaleureuse.
Toi, tu connais, Sylvain.
Je connais, ouais. J'aime beaucoup l'ambiance. J'y allais souvent le mercredi soir à une époque. Ouais. Et on n'était pas des masses, et du coup, c'était vraiment l'accueil était super sympa.
Ouais, sympa.
Du coup, à tous ceux qui aiment les restaurants à burger et au moins pour manger de la qualité. Quoi.
C'est ça.
Voilà, on est là-bas. C'est ça. Une idée du prochain resto dont tu nous parleras ou pas?
Moi, je pensais plutôt faire une. Vous énoncez une ou deux recettes de plats provençaux traditionnels.
Mais on y reviendra aussi.
Après, ouais. Je sais que certains plats que je voulais énoncer rebutent certains. Voilà, parce qu'ils aiment pas les abats.
C'est pas grave, il y en a pour tout le monde.
Ouais, les pieds paquets.
Les pieds paquets à la Marseillaise.
Ça, c'est sûr qu'on y reviendra.
Pas à la Marseillaise, justement. Ah. Je vous en parlerai.
Ok.
Ça va, on attend ça alors. Sinon, moi aussi, pour les prochaines sorties, j'ai quelques idées, alors pas forcément culinaires, mais pour tous. Donc, pour l'actu sortie, samedi 25 février, à l'Électrode de Miramas, se présente Rock from Mars, une soirée qui promet du bon son dans un super lieu, avec à l'affiche Raquel Trax, Belphégors et Dog Fries. Du 2 mars au 1er avril, retrouvez Mina Merad et Jeff Carias dans Si Dieu veut, une comédie céleste et dans l'air du temps au Quai du Rire de Marseille. Vendredi 3 mars, le Eric Truffaz Quartet sera au Théâtre des Salins de Martigues, un mélange world music, jazz et pop instrumental. Donny Donny, leur nouvel album, est porteur de messages poétiques et politiques d'à travers le monde. Si vous préférez les balades en journée, du 2 au 5 mars, rendez-vous au Salon des loisirs créatifs au Parc Chanou de Marseille. Et on se retrouve juste après une petite pause avec Corinne, notre invitée, pour parler d'un rendez-vous à ne surtout pas manquer.
Satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another.
The dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll will see that rhythm is a key. Hit, get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on a sneak when I hear funk blue, blue playing pop pipe. Follow hood to shoot, baby, just sing about the groove.
Sing it.
The groove is in the heart. The groove is in the heart.
C'était Groove is in the Heart de D-Light. Nous sommes avec Corinne Dugan, présidente de l'association du Carnaval de Saint-Rémy, pour nous parler de ce projet. Salut Corinne.
Salut.
Alors, donc, tu es présidente du Carnaval de Saint-Rémy depuis 2 ans.
C'est ça, oui.
Peux-tu nous faire un rapide historique du Carnaval de Saint-Rémy et la tradition ?
Oui, bien sûr. Donc, le Carnaval de Saint-Rémy a été lancé en 98. Par Christian Coulon et le groupe Tarabastal. Donc c'est un groupe carnavalesque qui écume tous les carnavals de Provence jusqu'en Italie, en Espagne. Et Tante Saint-Rémy, ils ont eu envie de lancer de construire une tradition autour du carnaval, puisqu'il n'y avait rien à cette époque-là à Saint-Rémy. Et donc ça fait aujourd'hui 20 ans que ça existe.
Ah oui, quand même, un beau bébé.
Voilà, un beau bébé. Et voilà, on a travaillé cette tradition autour de la Chaux-Chevieille, la reine du carnaval, et de son fils de Caramantran. Et ma foi, chaque année, ça grossit de plus en plus. On a de plus en plus de participants et de spectateurs pendant ces 2 jours de carnaval.
Quel est le rôle de la Chaux?
Alors, la Chaux, elle représente, en fait, c'est la vieille. Elle représente la terre-mère, la terre nourricière, mais elle représente aussi la renaissance de la nature, le printemps. Dans l'histoire de Saint-Rémy, en fait, cette vieille, c'était une vieille sorcière. Tout le monde en avait peur, mais c'était elle qui connaissait tous les remèdes. Donc on en avait peur, mais bon, quand on était vraiment malade, c'était elle.
Elle était là pour
voilà.
Nous.
Et quand on faisait des méchancetés, eh ben, on disait que la chaoche, elle venait nous chaocher.
Elle était là pour nous aussi.
Voilà, elle venait nous chaocher pendant la nuit, c'est-à-dire nous sauter sur le ventre pour nous faire mal, nous empêcher de dormir et nous rappeler les méchancetés ou même les mauvaises pensées qu'on a eues.
D'accord.
C'est un djihadiste, quoi.
C'est très bien d'actualité, j'aime bien. Pourquoi le carnaval est considéré comme une fête pour adultes plus que pour les enfants ?
Alors, ben ça, c'est une tradition, c'est la tradition du carnaval. Le carnaval, ça a été, c'est une fête païenne au départ qui permettait au peuple de se lâcher une fois par an pour dégoupiller, pour comme on enlève le bouchon de la cocotte minute. Ça permettait au peuple, ça permettait aussi à nos nobles, à nos rois, etc., de permettre au peuple justement de sortir de leur gond. Et c'était permis ce jour-là. Voilà, on disait que les nobles se déguisés en paysans et les paysans en nobles et ils agissaient de la sorte. Il y a Alexandre Jardin qui l'a très très bien expliqué dans L'île des gauchers où voilà, c'est le jour où tout est permis, c'est le jour où les femmes mariées peuvent aller fricoter avec d'autres hommes. Ouais. C'est le jour où on peut faire tout à l'envers. Ce qu'on ne fait pas dans la vie normalement, on le fait le jour du carnaval.
Et c'est valable pour le 14 du coup ?
C'est tout à fait valable pour le 14.
Ah, je vais y aller.
Mais c'est pas le 14.
C'est pas le 14,
c'est
ça tombe bien. Tu dis c'est le jour où tout est permis, mais le carnaval ce n'est pas qu'une seule journée, rappelons-le. C'est toute une organisation à l'année. Quelles sont les autres actions à l'année que vous organisez ?
Alors bah, déjà, le carnaval, on le prépare toute l'année. C'est-à-dire que c'est des réunions, c'est des ateliers, c'est confectionner les costumes, c'est remettre en route le char. Donc le carnaval de Saint-Rémy n'est pas un corso comme on le fait traditionnellement en Provence. Il y a que des groupes de gens costumés, des groupes de musique évidemment. Le seul char qu'il y ait, c'est le char où la chaoche défile. Voilà. Donc évidemment c'est toute l'année. L'année dernière, on a également organisé la fête d'Halloween, puisque on peut dire que le carnaval c'est le solstice d'été, le printemps, plutôt. Et Halloween, donc fête des morts pour le francisé, 31 octobre. Et là on est au solstice d'automne. Donc c'est deux pendants. De
fêtes où on se costume mais dans une contradiction.
Voilà, puisque pour carnaval, c'est les morts qui réveillent les vivants. Ça m'amène à parler de Charivari, puisque là, c'est vraiment ce qu'on fait ce soir-là. Donc, on se réunit costumés tout de blanc vêtus. Donc, comme si on sortait du lit avec le bonnet de nuit, la chemise de nuit. Et puis, on va tarabuster, on va embêter, on va réveiller les vivants pendant la nuit, en tout cas le soir.
Comme dans les rêves.
Comme dans les rêves, tout à fait.
Voilà.
Et on les réveille, on leur fait une offrande. Donc on a des grandes cannes avec des oranges au bout et on tape avec les cannes sur les fenêtres qui sont au perchis à Saint-Rémy-de-Provence. Donc les gens ouvrent la fenêtre et en échange d'une orange, ils nous offrent bien souvent à boire. Voilà. Donc c'est une bouteille de vin, une bouteille d'alcool. Et pour les remercier, on leur chante une sérénade.
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bien entendu. Et donc on défile comme ça dans les rues de Saint-Rémy de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin.
On rappelle que le Charivari, donc, c'est la veille au soir du carnaval.
C'est
donc
le vendredi,
c'est 10 mars pour le prochain et 11 mars pour le carnaval. Si on désire s'impliquer dans le carnaval cette année ou les autres, comment est-ce qu'on peut faire et comment ?
Alors, déjà, nous contacter, donc Facebook, par email. Donc l'email, c'est carnavaldesaintremy, en toutes lettres, @gmail.com. Vous nous contactez par ce biais-là. Et puis, si vous avez envie de vous impliquer en tant que bénévole, évidemment, il y a tout un tas de choses à faire, c'est-à-dire communiquer, flyer, faire l'affichage, en parler autour de vous, auprès d'associations, par exemple, qui pourraient s'impliquer en tant que groupe, se costumer et de cette manière nourrir le défilé. Là, évidemment, vous êtes tous les bienvenus.
Et apporter des idées aussi pour d'autres événements même.
Bien sûr, bien sûr.
Très bien, merci Corinne. Donc, on rappelle le prochain rendez-vous, les 10 et 11 mars pour le carnaval. Peux-tu redonner le programme ?
Alors, le vendredi 10, le rendez-vous est à partir de 19h sur la place de la mairie à Saint-Rémy-de-Provence. Ensuite, le samedi, ça démarre à 14h l'après-midi. Donc là, on propose un atelier maquillage et coiffure, si on a assez de bénévoles. Donc, tous ceux qui souhaiteraient participer, si vous connaissez des gens qui sont des maquilleurs professionnels ou tatoueurs, pourquoi pas, vous êtes les bienvenus pour venir maquiller les gens, les enfants.
Coiffeurs aussi.
Coiffeurs aussi, évidemment. Donc, c'est à partir de 14h sur la place de la mairie. Le défilé démarrera aux alentours de 16h30, donc pour une heure et demie de défilé. Ensuite, aux alentours de 18h, on aura le jugement de Caramantran, dont on n'a pas parlé, mais le Caramantran, c'est le méchant de l'histoire. C'est le fils de la chaoche vieille, mais qui est responsable de tous les maux de l'hiver. Donc celui-ci, il va être jugé, il va être coupable et il va être brûlé. Voilà. Ensuite, on va tous danser autour de ce bûcher pour finir avec une soupe qui est offerte, donc la soupe traditionnelle du carnaval, qui est offerte à tous ceux qui le souhaitent. Et puis, on finira par, jusque la fin de la soirée, par de la musique. Donc, vous avez les groupes qui viennent jouer. Donc, les groupes qui accompagnent le défilé joueront ce soir-là. Vous avez la cérémonie de la Pissagne, qui est vraiment un petit spectacle traditionnel, mais pas trop quand même. Voilà.
Et ultra subversif.
Et voilà, subversif marrant. Enfin, bon, voilà, je vous en dis pas plus parce que vraiment,
donc,
c'est.
Tout ça, toute la soirée se déroule à la salle Jean Massé, à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Hein. Et même si vous n'êtes pas Saint-Rémois, vous êtes quand même bienvenue.
Bien entendu.
C'est une fête ouverte à tous.
Voilà, et on finira donc évidemment avec notre DJ préféré, Mister Panda, qui mettra le feu aux platines et qui fera danser la salsa à ta grand-mère.
J'adore cette expression. Merci beaucoup, Corinne.
Ça dépendra de la quantité de pissagne.
On rappelle que tout le monde est bienvenu pour participer au carnaval, en être acteur également. N'hésitez pas à contacter donc Corinne ou Nathalie par mail au carnavaldesaintrémy@gmail.com ou sur le Facebook Carnaval de Saint-Rémy. Une info à rajouter, Corinne ?
Bah, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, voilà, on vous attend nombreux pour fêter et pour participer à cette liesse populaire.
Merci beaucoup. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on y sera et on vous fera certainement le compte-rendu. Tout de suite, on s'écoute Jagger 67 d'Infidels avant de retrouver Alice qui a encore sorti un vieux film du placard pour sa chronique cinéma.
Shoes go. I'm effective, irrespective. I go out dancing in the East End, looking for targets out of sight. A rhythm queen dancing burlesque, selling white lies in a strobe light. I want you with your twisted hair. Step. I want you. She take me down to the cubicle to slap the water on the floor. And every time that the door banged, she said, give me one more, give me one more. We make the sound of the satellite breaking through gravity. I am Jagger 67. Affected, you're selected. I want you with your twisted hair and your lip-ring stare. I want you in your perspex skirt. You are fake fun, you glimmer love.
Et tout de suite, on retrouve Alice pour sa chronique cinéma.
Alors, aujourd'hui, j'ai déterré pour vous un film américain sorti en 1968, The Swimmer, réalisé par Frank Perry. Alors, le synopsis, c'est par un après-midi d'été ensoleillé, un homme en maillot de bain, appelé Ned Merrill, qui est joué par Burt Lancaster, sort des bois et pénètre dans une belle propriété d'une banlieue huppée du Connecticut pour profiter de la piscine déserte. Après avoir fait quelques longueurs, il sort de l'eau et se retrouve nez à nez avec les propriétaires des lieux qui, passé quelques secondes d'étonnement, se déclarent ravis de revoir leur ami Ned Merrill qui n'avait pas donné signe de vie depuis bien longtemps. Ned est joyeux mais peu attentif, comme perdu dans ses pensées ailleurs. Et il étonne encore plus ses hôtes lorsqu'il leur déclare qu'il compte rentrer chez lui à la nage. En effet, chacune des propriétés situées dans la vallée possède sa piscine privée et Ned explique qu'il va passer de l'une à l'autre pour regagner sa demeure. Un peu délirant. Il prend congé de ses amis et plonge dans cette rivière imaginaire qu'il baptise du prénom de sa femme, Lucinda. Alors, ce film, je vois encore...
Encore Sylvain qui grimace. C'est alors, ma journée.
Alors, le film The Swimmer n'a rien de commun avec le traditionnel film de studio. C'est une œuvre délicate et quasi expérimentale qui repose d'une part sur l'usage de multiples métaphores et d'autre part sur un jeu constant avec les effets de style et les ruptures de ton. Il n'a d'ailleurs pas eu un grand succès à sa sortie et c'est un des films hollywoodiens qui reste presque inconnu du grand public. Ainsi, toute l'histoire se base sur cet homme, joué par Robert Lancaster, qui est dans une forme éblouissante d'ailleurs pour ses 52 ans, qui, de piscine en piscine et au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, retrouve certains pans de sa mémoire. Il y est dévoilé les bribes de sa vie, ses réussites et ses échecs. Ce voyage d'une journée, avec au bout le néant, se permet des incartades bucoliques stupéfiantes. Il y a par exemple une scène tournée au ralenti, où Ned Merrill galope et saute des obstacles tel un cheval pour épater une jeune fille. Une scène époustouflante. Et lors de cette scène, il est tellement euphorique qu'il fait peur. Et après cet acmé d'enthousiasme grinçant, se poursuit le désenchantement. En effet, le malaise est persistant dans ce film. On s'identifie déjà au propriétaire des villas qui retrouve cet homme, disparu depuis un moment, en train de nager tranquille dans leur piscine sans y avoir été invité. Ainsi que les incohérences, les différences de discours entre Ned et ses voisins, qui nous signifient qu'ils ne sont pas dans la même réalité. Ce qui nous conduit, en tant que spectateurs, à construire des théories pour colmater ces obscurités. Enfin, ce film, The Swimmer, en immergeant dans les propriétés privées des Richards de cette vallée du Connecticut, est une critique du culte de la réussite sociale, car il nous offre la description impitoyable d'un monde de bourgeois, superficiel, aseptisé et autarcique.
Ce qui me plaît dans ta chronique cinéma, Alice, c'est que tu nous intéresses vraiment au 7e art en nous présentant les aspects artistiques, décalés ou voire techniques.
Oui.
Les aspects chelous.
Voilà,
ouais, c'est ça, des chelous. Étrange et absurde. Voilà,
je c'est vraiment un bon film que tu as déniché encore une fois. Merci beaucoup, Alice.
J'ai juste une question. C'est un film de 68 qui a mal marché. Comment tu as connu ce putain de film?
J'ai des contacts qui me l'ont montré.
Ok.
Elle a un bon réseau.
Je suis dans un réseau cinéphile, c'est pour ça.
C'est quoi, c'est Vidéodrome à Marseille ou pas?
Vidéodrome, c'est très intéressant. Tous les soirs, il y a des très très bons films, assez méconnus qui passent. Donc c'est un très bon cinéma dans Marseille, décalé.
Okay.
Ok.
Bon, l'émission touche à sa fin. Donc avant la fin de l'émission, c'est l'heure de
la question du jour.
La question du jour, Sylvain, c'est quoi?
Alors, comment des gamins plutôt non violents peuvent être embrigadés dans des mouvements du style djihadisme?
Eh ben tiens, on en revient à ton débat,
ouais.
À ton sujet.
Eh bien, je vois que tout le monde me regarde, puisque
allez,
j'ai parlé du livre. Donc, alors, ça tombe bien, puisque ce n'est pas le premier livre de Dunia Bouzard que je lis. Donc, Dunia Bouzard, hein, on a dit tout à l'heure, qui dirige le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, et du coup qui avec son équipe permet de, enfin, essaye de déradicaliser beaucoup de jeunes, et donc j'ai commencé un petit peu à avoir des idées. Bon, c'est un sujet quand même assez assez complexe. On se rend compte qu'ils arrivent à embrigader des jeunes musulmans comme des athées, comme des catholiques, comme enfin voilà, il y a vraiment pas de profil type.
Et de tout niveau social aussi.
Voilà, ouais, de tout niveau social, exactement. Donc c'est pour ça que je trouvais que cette question était quand même vachement intéressante, puisque c'est, on peut se sentir désarmé face à ce phénomène.
Oui, selon moi, c'est pas une histoire de djihadisme ou pas djihadisme, mais c'est une histoire d'embrigadement dans n'importe quel mouvement de pensée extrémiste, sectaire, du moment où le jeune ou le moins jeune vit une perte de repère totale, quoi.
Exactement. Et comme il est dit dans le livre que j'ai présenté, dans un autre livre que j'ai lu de Dounia Bouzard qui s'appelle « La vie après Daesh », que je conseille aussi comme livre, plein de témoignages. C'est ça, c'est vraiment les mêmes techniques qui sont appliquées dans les sectes, quoi, pour embrigader de n'importe qui, quoi. Là, pour le coup, pour le djihadisme, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est la déshumanisation, si je peux dire. Vraiment, c'est les victimes humaines, les victimes sont plus humanisées.
Bah, le corps physique, en fait, dans tout ce qui est même aspect religieux, on a un esprit, on a une âme. Du coup, le corps physique n'est plus qu'un objet physique et c'est plus un humain qui vit, qui a un cœur qui bat, sans doute.
Oui, c'est un peu l'idée. Puis il y a aussi autre chose, tous ces mouvements ont des règles très très dures, très sévère, et la dureté de ces mouvements, en fait, comme on disait, tu disais des jeunes qui sont en perte de repères, ben souvent c'est ça, en fait, ils ont besoin de cadres très violents et très très sévères, et ça revient tout le temps. Là, je vais me permettre de lire un petit passage du livre très rapidement, qui montre à quel point vraiment à quel point tout est très sévère. Donc Farid Ben Yetou, avant de passer au djihadisme et salafiste, y a des différences entre les deux, mais les règles qui sont appliquées sont plutôt similaires. Écoutez ce qu'il dit. Donc le souci du détail était obsessionnel. Chaque geste du quotidien devenait une source d'angoisse. A-t-on le droit de se coiffer de telle manière, de se laver les dents avec du dentifrice? On était non seulement incapable de penser par nous-mêmes, mais on devenait incapable de vivre sans injonction. J'étais hanté par l'idée de trahir nos enseignements salafis. La répétition méticuleuse me donnait l'impression d'être fidèle. Plus j'appliquais les règles, plus j'avais le sentiment de cheminer dans la vérité, c'est-à-dire dans les pas du prophète. Ne pas manger comme lui revenait à le trahir. Dormir du mauvais côté devenait un drame. La relation à Dieu était réduite à un ensemble de rituels. Il n'y avait plus aucune place pour le spirituel. Tout était concentré autour de gestes répétitifs.
Je pense que ce livre est un bon exemple pour vraiment montrer la gravité de ce mouvement de pensée aussi. Mais après, bon, ça, on est tous plus ou moins d'accord dessus. Après, ce qui est plus difficile, c'est de se dire comment on tombe là-dedans, pourquoi nos enfants demain peuvent l'être. Lui-même est un Français. Oui. Voilà, je veux dire, c'est
ouais, mais la ça plupart, peut toucher la plupart tout le du monde. Temps, c'est, ça touche surtout les simples d'esprit, non?
Alors,
absolument pas.
Voilà, pas forcément, en fait.
C'est la perte de repère.
C'est la perte de repère qui est vraiment mise en avant.
Et puis, ils obéissent à des règles tellement précises. Ils sont face à un discours qui est complètement unique. Donc, ils n'ont plus la place, eux, pour avoir des désirs. Ils doivent juste suivre les règles. Comme tu dis, ça va très loin. Est-ce que je dois me coiffer de telle manière?
Si ce que tu appelles simple d'esprit, c'est quelqu'un qui peut se faire embrigader, oui, mais sauf que simple d'esprit, ça définit quelqu'un qui ne pense pas. Et au contraire, ces gens, souvent, ils pensent beaucoup. Et souvent, ils pensent beaucoup trop. Et après, ils pensent mal.
Les têtes pensantes. Les plus haut placés, non?
Pas que. Non. Vraiment. C'est ça qui est vachement. Qui fait flipper. Enfin, moi, c'est ce qui me fait flipper. C'est la variété des victimes, en fait, qui se font embrigader. Enfin, victimes. La variété
la différence.
Ils vont prendre, par exemple, des gens qui ont soif de violence. Ils vont prendre des jeunes qui ont envie d'humanitaire. Ils vont prendre des gens qui ont des musulmans qui ont envie de plus de rigueur, qui trouvent que l'islam n'est pas assez rigoureuse. Il y a vraiment une variété qui est assez
Et même ceux qui se rebellent contre le système actuel parce que la politique va mal et tout ça. Donc les gens se disent bon, bah, il n'y a plus aucun système qui me convient. Donc ils vont vouloir se créer leur système à eux aussi.
Moi, je vais aller à contre-courant, en fait. On parle beaucoup du djihadisme comme quelque chose de « waouh, exceptionnel, ça nous arrive sur la gueule ». Non, C'est pas quelque chose d'exceptionnel. On peut prendre à tous les niveaux. En fait, c'est, à la base, ça part. Ouais, la perte de repères, c'est ce qu'on a plus, c'est les batailles de clochers qu'on avait avec l'Interville avant, qu'on avait avec les disputes d'église, des choses comme ça. Vous me regardez bizarrement, mais regardez sans aller dans le djihad avec de la propagande et compagnie. Le hooliganisme, se mettre sur la gueule tous les week-ends avec des inconnus en les haïssant juste parce qu'ils viennent d'une autre ville. Sont des, on en a tous autour de nous. Ils ne vont pas aussi loin, certes, mais c'est exactement le même processus.
On le fait aussi sur les matchs de rugby.
La perte de repères.
Non, mais les matchs de rugby, à la limite, il y a un côté sympathique après 2-3
habitants. Ah oui, on picole après. Ouais.
Voilà, c'est totalement différent. Non, le hooliganisme et le côté ultra, là, généralement, on a la haine de l'autre gratuit. C'est ce qu'on a généralement dans le, en fait, dans le djihadisme, ça va être exactement la même chose, sauf que le hooliganisme va un peu moins loin. Alors pour aller plus loin, effectivement, il y a ce côté embobinage, ce côté propagande, ce côté embrigadement. Mais de base, chaque personne là en soi, ça, chaque personne peut tomber là-dedans. Chaque personne, quand tu étais petit devant Interville, tu disais allez ma ville et abat l'autre, alors que tu t'en fous de. C'est quelque chose qu'on a d'humain à l'intérieur. Et après, pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que tu as la machine médiatique qui dit « Ah, mais de toute façon, si vous êtes exclu du système français, c'est ça, voilà, c'est votre idéal. » Quelque part, c'est faire leur pub en permanence. Et pourquoi? Parce que...
Ah oui, ça c'est...
il faut savoir que les djihadistes... actuellement, pourquoi on en parle autant? C'est la peur, c'est l'angoisse. Il ne faut pas oublier que tous ces putains de médias, ils sont tenus par des vendeurs d'armes. Croire que le djihadiste qui est là-bas au fin fond de sa cambrousse, il arrive à inculquer lui tout seul à Bobigny ou n'importe où en France que c'est bien d'aller là-bas, c'est faux, ce sont des messages généraux. Dire que le djihadisme est le seul problème, non, le problème est beaucoup plus global.
On n'a pas dit que c'était le seul problème, mais honnêtement, si j'ai des enfants... que mon petit part faire le djihad en Syrie, ça me ferait beaucoup plus de mal qu'il parte faire le hooligan, même si, bien entendu...
Tu as lu le livre. Est-ce qu'à un moment, il donne la définition du djihad? Non. Déjà, le djihad, c'est le combat intérieur auprès de Dieu, c'est-à-dire savoir ce qui est bien ou mal par rapport à toi-même. Déjà, le mot djihad est complètement erroné.
Alors, ce qu'il disait par rapport au djihadisme, et comme il était expliqué dans le livre aussi, c'est la perte de notion d'humanité. Alors, comme on parle d'autres points similaires, d'autres cas, les hooligans ou même les Interville et compagnie, ce que tu dis, c'est très vrai. Et on en revient à la recherche de repères et d'identité. C'est que ça arrive à tout le monde, bien sûr, c'est une évidence. Mais où est-ce qu'elle est la limite, justement,
entre, tu retrouves des amis, la famille.
Entre ce besoin d'identité et qui est aussi, comme tu dis, le vrai sens du mot djihad, qui est une quête d'identité, ce que tu veux, et la déshumanisation qui entraîne au djihadisme violent et meurtrier.
C'est voilà. Juste que c'est plus poussé, mais je ne vois pas de différence.
Il y a quand même, aussi cette notion en France depuis quelques années, en France et ailleurs. C'est-à-dire quel avenir ont nos enfants aujourd'hui? Moi, je suis née dans les années 68. J'ai toujours connu le chômage. Mais aujourd'hui, dans les années 90, des années 2016, on en est où? Je veux dire, quel avenir on a pour ces jeunes? Hein, pas de travail, c'est même les Français, alors on va dire 100% Français, ça n'existe pas, mais je veux dire, même nos jeunes Français, moi j'ai le cas d'une amie qui a un enfant qui est embrigadé, alors qui n'est pas acteur au niveau du djihad, qui n'est pas parti en Syrie ni quoi que ce soit, mais qui s'intéresse réellement à ce mouvement, et sa maman, elle est...
Désemparée,
oui. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Et c'est un enfant qui vit, voilà, il a 18 ans, il vit dans un petit village, au fin fond de la Sologne.
Oui, donc c'est bien que tu précises, ça ne touche pas que les cités, c'est aussi les enfants des petits villages et compagnie.
Il n'est pas dans un quartier nord.
C'est l'isolement qui fait ce qui provoque ça.
C'est juste quel avenir ont nos enfants. Quel avenir?
Mais est-ce que c'est une solution?
Oui, non, mais avant, on avait, je sais pas moi, on avait des idées politiques, on avait, on adhérait à des courants, on adhérait à des choses. Aujourd'hui, Nos enfants, ils adhèrent à rien du tout.
C'est exactement ça. Ça aussi, c'est un vrai problème.
Ils adhèrent à rien du tout.
Aussi, parce que quand tu dis problème. Tu es né en 68, tu as connu les années 70. Dans les années 70, il y avait le mouvement punk qui revendiquait clairement le no-futur. Ils se sont jamais fait exploser nulle part, quoi. Je veux dire, faut... c'est pas ça, la base. La base, c'est... De base, quelqu'un va vouloir être sous un étendard. C'est comme ça. C'est humain. C'est depuis tout petit, on te formate à ça.
On a besoin de se sentir appartenir à quelque chose.
Ceux qui vont pas être chefs de meute, ils vont partir... Ceux qui sont suivis, ceux qui sont en dehors de tout ça vont partir pour avoir un côté carré,
donc,
un côté
familial. Voilà.
Ouais, mais justement, le coup du mouvement djihadiste tel qu'il est aujourd'hui, ils arrivent à faire valider à des gamins qui parfois sont plutôt pacifistes qu'il faut tuer pour faire entre guillemets leur bien. Et ils arrivent à leur faire accepter ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Alors, il y a un travail qui est long, hein, qui est mené par les têtes pensantes de ces mouvements. Mais ils arrivent à faire admettre ça à des gamins. Et il y a le côté, réseau social qui joue un rôle très important.
Énormément.
Il faut faire très, très, très important.
Médiatique.
Facebook
si
et tout.
Si on résume, le côté médiatique fait qu'on en parle tout le temps et que donc ça valorise les jeunes et qui veulent, enfin les jeunes ou moins jeunes, mais qui veulent être connus, mis en valeur et que c'est un phénomène de mode. Donc plus on en parle, plus on va en parler, c'est certain. Mmh. Il y a le fait qu'on manque cruellement d'avenir et d'ambition. Et il y a le fait de l'isolement. L'isolement, ça, je pense que les parents et les proches peuvent déjà y remédier. Ce serait déjà un premier pas.
Après, le problème du groupe, c'est que quand l'effet de groupe a fait son travail et que les parents ne comprennent pas ou les amis ne comprennent pas, très vite, ces personnes-là se sentent isolées, comme on disait. Et parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs amis, leurs proches n'adhèrent pas à leur, soit leur reconversion, soit... leurs idées très 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 violentes, et du coup ils se disent je ne peux être bien que dans mon groupe qu'à parmi ce qu'ils appellent leurs frères.
Ce qui est difficile sur ce genre de sujet, c'est qu'on peut soulever les problèmes à notre niveau, on peut proposer des solutions, en parler, mais on n'a pas la solution concrètement.
Il n'y a pas de solution.
Il n'y a pas de solution concrètement.
Il n'y a pas de solution.
À part dire aux médias d'en parler plus, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes à ce moment même. Donc, voilà,
c'est... Après, moi je pense qu'en parler c'est bien pour comprendre.
C'est bien aussi pour comprendre, oui. Et surtout, par exemple, lisez ce livre pour comprendre ce mouvement et qu'on peut aussi, on peut aussi s'en sortir. Quoi.
Dans le livre, ils mettent en avant qu'ils les chargent comme des mules au niveau drogue aussi ou pas ?
Non.
Parce que ça aussi, c'est une réalité. Hein.
C'est vrai.
Ils ont des drogues spéciales qui déshumanisent complètement. Enfin, y a beaucoup de... C'est pour ça, je te dis honnêtement, ok, ce livre a l'air très bien. Maintenant, ça a l'air d'être une toute petite fenêtre de cette histoire. Et encore
c'est
une fois,
petite fenêtre, mais qui peut ouvrir bien les portes pour ceux qui ne connaissent pas du tout.
Oui, mais alors, encore une fois, le gros souci que je vois, c'est que ça n'explique pas le mot djihad, qui, à la base, est totalement galvaudé. Voilà.
Alors, juste, tu parles, je réponds sur le fait que tu dis que ça ouvre une toute petite porte. Justement,
fenêtre.
Il est dit dans fenêtre.
Pas de souci.
Il est dit dans le livre justement par Dounia Bouzar que donc Farid lui est passé de l'islam au salafisme, du salafisme au djihadisme, mais que justement il y a bien d'autres victimes et bien d'autres profils qui passent de l'athéisme directement au djihadisme et que en aucun cas ça ne résume tout. Voilà. Mais lire ça peut permettre de comprendre certaines choses.
Voilà. On terminera là-dessus parce qu'il est l'heure. Merci à tous de venir tous les jeudis d'assez loin, hein, entre Marseille, Salon, Saint-Rémy aujourd'hui, pour nos petits Gécos.
Pendant les vacances.
Pendant les vacances en plus.
Fainéant de prof.
Merci à ceux qui nous suivent. Merci au Carnaval de Saint-Rémy. Merci à Corinne Dugan d'être venue pour cette émission.
Merci à vous.
Merci à tous ceux qui nous aident à évoluer chaque semaine. Et n'oubliez pas de nous contacter, vous aussi, pour parler de vos projets, de vos sorties, de vos coups de cœur. Et on se quitte en musique sur What You Know des Two Doors Cinema Club. It's what I
want to do. I am leaving.